Évangile de Jean, chapitre 1, versets 1 à 18. Au commencement, lorsque Dieu créa le monde, la parole existait déjà. Celui qui est la parole était avec Dieu et était Dieu. Il était donc avec Dieu au commencement. Dieu a fait toutes choses par lui. Rien de ce qui existe n'a été fait sans lui. En lui était la vie et cette vie donnait la lumière aux hommes. La lumière brille dans l'obscurité et l'obscurité ne l'a pas reçue. Dieu envoya son messager, un homme appelé Jean. Il vint comme témoin pour parler de la lumière. Il vint pour que nous tous croient grâce à ce qu'il disait. Il n'était pas lui-même la lumière, il était le témoin qui vient pour parler de la lumière. Et cette lumière était la seule véritable, celle qui vient dans le monde et qui éclaire tous les hommes. Celui qui est la parole était dans le monde. Dieu a fait le monde par lui et pourtant le monde ne l'a pas reconnu. Il est revenu dans son propre pays, mais les siens ne l'ont pas reçu. Cependant, quelques-uns l'ont reçu et ont cru en lui. Il leur a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Ils ne sont pas devenus enfants de Dieu selon la nature humaine, comme on devient enfant d'un père terrestre. C'est Dieu qui leur a donné une nouvelle vie. Celui qui est la parole est devenu un homme et a vécu parmi nous, plein de grâce et de vérité. Nous avons vu sa gloire, la gloire que le Fils unique reçoit de son Père. Jean a parlé de lui, il s'est écrié, c'est de lui que j'ai parlé en disant, il vient après moi, mais il est plus grand que moi, car il existait déjà avant moi. Nous avons tous reçu notre part des richesses de sa grâce. Nous avons reçu une bénédiction après l'autre. Dieu nous a donné la loi par Moïse. Mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, mais le Fils unique qui est le Dieu, qui est Dieu et demeure auprès du Père, l'a fait connaître. Amen. Vous pouvez déjà constater par vous-même la grande différence entre l'évangile de Jean et les quatre autres évangiles, les trois autres évangiles synoptiques. Matthieu, Marc et Luc, un jour de Noël, dans le lectionnaire, le récit ne parle pas de la nativité. Le récit historique ou le déroulement de la nativité n'intéresse pas trop l'apôtre Jean. Par contre, ailleurs, chez Matthieu, Marc et Luc, on parle bien de Marie, de Joseph, des bergers, des mages. Mais rien de cela ici, juste. Après le prologue, il commence son histoire par le choix des disciples, comme s'il avait oublié le chapitre sur la naissance du Christ. Tout de suite, on voit un Jésus adulte qui choisit ses disciples dans l'évangile de Jean. Et après les noces de Cana, et Jésus qui chassa les marchands du temple, et ainsi de suite. Étonnant comme évangile. Mais c'est ça qui fait la spécificité de l'évangile de Jean. Et là, j'emprunte ici une des expressions de mon prof de dogmatique à l'époque qui disait « On voit ici le texte du texte. » C'est le texte du texte qui est le plus important chez Jean, et non le texte, non le récit. C'est le texte qui est derrière le récit qui est la bonne nouvelle pour Jean. Et c'est cela l'écriture grand E. Que les réformateurs, à chaque fois, nous disent l'écriture seule. Et quand ils parlent de l'écriture seule, ce n'est pas ce texte que vous voyez sous les yeux, c'est l'écriture qui est cachée derrière le texte du texte. Alors je me suis dit, pour une fois, je vais dresser un petit tableau pour vous montrer un peu le parallélisme entre la nativité qui est en filigrane dans ce texte. Et la thématique que Jean aborde ici, il parle de la nouvelle naissance. Au lieu de parler de la nativité du Christ, il parle de la nouvelle naissance. Alors j'ai mis en face à face l'histoire de la nativité de Jésus et de l'autre côté, notre nouvelle naissance. Dans l'histoire de la nativité de Jésus, la parole qui devient chair, qui est annoncée au verset 14, voilà qui résume toute l'histoire de la naissance de Jésus. Une seule phrase. Par contre, ici au verset 13, il est dit, ils ne sont pas devenus enfants de Dieu selon la nature humaine, comme on devient enfant d'un père terrestre, c'est Dieu qui leur a donné une nouvelle vie. On est devenu né de Dieu. De l'autre côté, il parle aussi de la lumière, de l'étoile, les anges, dans les évangiles synoptiques. Chez Jean, lui, il parle de la lumière qui brille dans l'obscurité. Et enfin, dans les autres évangiles, on parlait de il n'y avait pas de place dans les maisons, quand Joseph et Marie cherchaient une place pour accoucher. Par contre, chez Jean, il parle de, au verset 10, le monde ne l'a jamais connu. Celui qui est la parole était dans le monde, Dieu a fait le monde par lui, et pourtant le monde ne l'a pas reconnu. Je vais reprendre une par une ces trois points essentiels. Ici, l'œuvre créatrice de Dieu a opéré en Marie pour concevoir l'enfant Jésus. Et je souligne bien l'expression œuvre créatrice de Dieu. L'évangile de Luc apporte une lumière supplémentaire pour comprendre cette œuvre créatrice en Marie. Luc chapitre 1, verset 35, il est dit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance de Dieu Très-Haut te couvrira comme d'une ombre. C'est pourquoi on appellera saint et fils de Dieu l'enfant qui doit naître. Regardez bien cette mention. La puissance de Dieu te couvrira. C'est un peu à l'image d'une couveuse qui donne vie. Et c'est le sens même de l'ombre du Saint-Esprit ici. C'est l'ombre du Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui est à l'œuvre. Et ça nous fait penser à l'œuvre créatrice. Dans l'Ancien Testament, Genèse chapitre 1, et la terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres sur la surface de l'abîme, mais l'Esprit de Dieu qui planait au-dessus des eaux, qui a rendu la création possible. Quand l'Esprit de Dieu couvrait le monde, c'est là que l'Esprit a œuvré pour créer. Et c'est la même chose qui s'est passée avec Marie, l'Esprit de Dieu qui a œuvré lors de la création. Cet esprit-là était sur Marie pour concevoir l'enfant. C'est un acte de création. Et c'est cet esprit-là qui a rendu possible la conception de l'enfant Jésus dans le ventre de Marie. C'est alors pour Jean, la nouvelle naissance est uniquement l'œuvre du Saint-Esprit qui opère dans les cœurs de l'homme. Le cœur de l'homme qui est aride, qui est hostile à toute lumière. De nature, nous détestons Dieu. Ça fait partie de notre nature. Alors la nouvelle naissance ne dépend pas de nous. La nouvelle naissance ne vient pas de notre bonne volonté de venir à Dieu. Souvent on entend, venez à Dieu, acceptez Dieu, recevez Dieu. Nous ne pouvons pas recevoir Dieu. Nous n'avons pas les moyens de le recevoir parce que nous sommes aride comme à l'état de la création. C'est plutôt le contraire, c'est Dieu qui vient vers nous. Et c'est ça le message de la nativité qui est résumé dans cette notion de visitation, le ciel qui visite la terre. Et grâce à cette visite, à l'image de l'ange du Seigneur qui a rendu visite à Abraham, rappelez-vous, l'ange de Dieu est venu rendre visite à Abraham et Sarah, et l'année d'après, Sarah était enceinte. Donc vous voyez, la visite ici, ce n'est pas juste quelqu'un qui rend visite, mais sa présence crée quelque chose. Quand Dieu est là, sa présence agit, mais pas une présence passive comme la nôtre. Et quand nous parlons de la lumière en lien avec l'histoire de la nativité, cela nous fait tout de suite penser aussi aux deux récits sur les rois mages et les bergers de Bethléem. Ils ont été guidés par une lumière dans le ciel. Le premier à travers une étoile et le deuxième par la lumière des anges qui se sont apparus dans le ciel en pleine nuit pour leur annoncer que le Messie est né, ou plutôt le Messie est entré dans le monde par un corps. Et l'idée principale ici, c'est la visitation de Dieu, Dieu qui visite l'homme. Et ça nous fait écho à l'histoire dans l'Ancien Testament. Rappelez-vous, quand le couple a mangé aux fruits défendus, un soir, Dieu se baladait dans le jardin. Il est venu rendre visite le couple parce qu'il savait qu'il y avait quelque chose qui s'est passé. Quand Dieu rend visite l'homme, la lumière de Dieu agit. Une visitation qui vient d'en haut est de plus en plus mise en exergue ici, car quelles que soient les ténèbres qui couvraient le monde avant la création, lorsque la lumière fut présente, Dieu se met à l'œuvre pour rendre possible à toute forme de vie sur terre. Et derrière la manifestation de la lumière chez les bergers, ils ne faisaient que contempler, admirer cette splendeur et avaient une joie incommensurable. La lumière prend toujours le dessus. Même si le noir et les ténèbres sont là, ils ne peuvent pas refuser la force de la lumière. Alors, puisque nous parlons de la nouvelle naissance, rappelons-nous le tournant de la vie de Paul. Si vous vous rappelez de son histoire dans l'Acte des Apôtres, il fut renversé par une grande lumière. Avant sa conversion, il a été renversé par une grande lumière qui lui a terrassé. Et cette lumière qui lui parle, je suis Jésus, celui que tu persécutes. C'est là le tournant de la conversion de Paul. Cette lumière qui est venue à lui, qui l'a terrassé, qui l'a changé. C'est pas Paul qui s'est changé. C'est pas Paul qui s'est amélioré. C'est Paul qui a été terrassé par la lumière qui écrase. D'ailleurs, lumière en hébreu veut dire kabod, quelque chose qui est lourd, qu'on ne peut pas supporter. Et tant que nous parlons de Saül ou Paul, celui qui avait une haine farouche contre le Christ et contre les chrétiens, et je souligne bien ici que le monde déteste le Fils de l'homme. Il n'y avait pas de place pour l'enfant Jésus dans les maisons d'hôtes. Et cette image a été reprise chez Jean avec une dimension qui est encore plus forte. Il dit le rejet, verset 10. Le monde ne l'a jamais connu. C'est un rejet total. On n'en veut pas de cette lumière. Cette haine contre le Christ est une haine qui est normale malgré tout. C'est Jésus lui-même qui l'a dit dans Jean chapitre 15, verset 18. Si le monde a de la haine pour vous, sachez qu'il m'a haï avant vous. C'est normal que le monde ait le Christ. Et ne nous étonnons pas face à cette hostilité. Car lors du début du ministère de Jésus, il fut même emmené par l'Esprit de Dieu dans le désert pour être éprouvé. Et à un certain moment, le diable lui a suggéré de lui donner le monde en échange d'une allégeance à celui qui se prétendait comme étant le prince du monde. Et ce fait, nous devrions toujours nous attendre à une forte opposition de la part du monde. Soyons sûrs et certains, rien que les fêtes de Noël, vous avez peut-être entendu dans les journaux, dans des histoires, des anecdotes, on essaie toujours de grignoter chaque année. Il ne faut plus mettre la crèche parce qu'on est dans un pays laïque. Par contre, quand c'est les fêtes des autres religions, on ne touche pas. On voit bien que la lumière n'est pas accueillie. Il y a cette haine omniprésente, il faut que nous soyons conscients de cela. Et ce qui est mis en exergue ici dans notre méditation de ce matin, il nous faut vraiment un sauveur. Et quand on dit sauveur ici, c'est quelqu'un qui est capable de nous tirer, de nous retirer du gouffre des ténèbres, de l'emprise du monde et de la domination du mal. L'homme ne peut pas se sauver par lui-même. L'homme ne peut pas se sauver par ses propres moyens, car il n'a pas la force pour s'en sortir. Il a peut-être l'envie, mais même cette envie ne vient pas de lui. Et j'aime attirer votre attention sur le verset 12 et 13 de notre lecture. Il est dit, cependant, quelqu'un l'ont reçu et ont cru en lui. Il leur a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Ils ne sont pas devenus enfants de Dieu selon la nature humaine, comme on devient enfant d'un père terrestre. C'est Dieu qui leur a donné une nouvelle vie. En tenant compte de ces références, celui qui est né de nouveau, ou celui qui est converti, c'est la même chose, est celui qui n'est pas né du sang, ni de la volonté de la chair. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le texte parle de changement d'identité, changement de nature. Il ne s'agit pas ici de changement de comportement. Souvent, on fait ce raccourci. Quelqu'un qui est né de nouveau, quelqu'un qui a changé de comportement. Souvent, les gens font tout de suite cette assimilation-là. Nouvelle naissance signifie quelqu'un qui est né de nouveau, qui a reçu une nouvelle identité. C'est pas juste un changement superficiel. La nouvelle naissance va au plus profond des choses. C'est une question d'identité. D'ailleurs, si nous reprenons l'évangile de Jean, mais au chapitre 3, verset 3, il est dit, je te le déclare, Jésus le répondait, c'est la vérité, personne ne peut voir le royaume de Dieu s'il ne naît pas de nouveau. Jésus qui parlait à Nicodème. Et regardez bien la mention nouvelle naissance en grec est plutôt traduit s'il n'est pas né d'en haut. Vous voyez? Une nouvelle naissance, c'est quelque chose qui vient d'en haut. Une intervention de l'extérieur de l'homme, en dehors de nous-mêmes. Donc, la capacité de croire en Jésus ne vient pas de toi. Cette capacité de croire en lui, de venir en lui, puisqu'il a été dit précédemment que nous sommes sous l'emprise du mal et du monde. Donc, il faut une intervention de l'extérieur. Il faut une intervention qui vient d'en haut. Et c'est l'image de la naissance de Jésus qui vient vers nous pour faire cette œuvre créatrice. Alors, les leçons de morale, la sagesse, la philosophie, les efforts humains ne pourront jamais nous libérer. Ne pourrons jamais nous changer. Tout cela vient de nous-mêmes. Tout cela vient de nos performances. Mais il nous faut un sauveur. Un sauveur qui a reçu le pouvoir dans le ciel et sur la terre, qui peut tout changer et qui peut tout pardonner, comme nous venons de le chanter tout à l'heure, un roi qui pardonne. Nous allons terminer l'année. C'est vrai que nous avons l'habitude de penser à de nouvelles résolutions pour l'année, mais ce qu'il faudrait demander à Christ, c'est de lui dire, change mon cœur, Seigneur. Change-moi d'identité, change-moi de nature, car sans toi, je ne pourrais pas le faire. Tous nos efforts, si bien soient-ils, ne sont que des adaptations de l'extérieur, juste des petits coups de peinture pour faire des petits travaux à gauche, à droite, pour que les gens puissent voir, ah, mais il s'est amélioré, il est mieux que l'année passée. Mais on ne peut pas tromper Dieu avec cela. Il voit au plus profond du cœur. Et ce sera notre prière pour cette fin d'année. Amen.